Radio Okapi.
Le journal Belinda Bossuma.
À la une, cette découverte macabre en Ituri. 5 cadavres découverts ces 2 derniers jours à Babilaba Bombi. Les victimes ont été enlevées mardi lors d'une attaque des ZDF à Makumo, rapporte la société civile locale. Résistance de la population à la vaccination contre Ebola à Beni. L'équipe de riposte s'est dit inquiète. Elle invite toutefois la population à se faire vacciner massivement avec le nouveau vaccin, expertise des Congolais. Et puis, l'invité de ce midi, Isabelle Monga, coordonnatrice nationale du réseau national des femmes rurales RENAFER. Elle est en mission au Kasaï oriental pour une formation des femmes. Objectif, notamment, promouvoir les produits congolais. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. 5 corps découverts ces 2 derniers jours en chefferie de Babilaba Bombi, dans le territoire de Mambasa. Selon la société civile locale, les victimes sont des personnes qui ont été prises en otage mardi par des rebelles ADF au village de Makumo. C'était lors d'une attaque qui a fait 1 mort, 3 blessés et des personnes enlevées. L'Organisation de défense des droits de l'homme, CRDH, demande aux autorités militaires d'intensifier la traque de l'ennemi pour pacifier la région. Ezekiel Mouzali a nous raconté.
Parmi les victimes, 2 corps d'un homme et d'une fille d'une vingtaine d'âge venus du village de Mamboumé à la limite de la province du Nord Kivu ont été découverts jeudi au village de Mongoli dans la chefferie de Babilaba Bombi dans le territoire de Mambasa. 2 autres personnes qui revenaient de leur champ ont été abattues par ces hommes armés et qui ont abandonné leur dépouille dans la forêt. Selon la société civile locale, un autre corps sans vie d'un notable du milieu a été découvert mercredi dans la localité de Makeli. Le coordonnateur de l'ONG CRDH indique que la fouille continue pour retrouver d'autres victimes de cette attaque des rebelles des ADF. Ces derniers avaient ouvert le feu sur une position FARDC à Makumo avant de progresser au cœur du village pour commettre d'autres exactions contre la population. Cette organisation de défense des droits de l'homme invite l'armée à poursuivre l'ennemi dans la brousse pour prévenir une nouvelle incursion de ces groupes armés qui sillonnent dans la région. Contacté, l'administrateur du territoire de Mambasa indique que des dispositions sont prises pour protéger la population. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Restons en Ituri. Des affrontements se déroulent depuis ce matin entre les FARDC et les miliciens d'Akodeko à la périphérie des localités de Lopa et de Malabo. Nous sommes à environ 35 km au nord de Bounia, territoire de Djougou. La société civile locale avance un bilan provisoire des 2 morts, dont une femme décapitée. Plusieurs habitants sont pour l'instant en fuite dans les localités proches des zones de combat. Retrouvons encore une fois Ezekiel Mouzalia.
Des tirs nourris à l'arme lourde ont réveillé ce matin les habitants des 4 villages Malabo, Lewe, ainsi qu'à la colline d'Iga Barrière sur la route nationale numéro 27 en territoire de Djougou. Selon des sources locales, des combats se déroulent dans cette région entre les FARDC et les miliciens de la Codeco après leur incursion au groupement Malabo. Au cours de cette attaque, une position des militaires FARDC dans un village proche de Lewe a été saccagée et un militaire serait tué par ses hors-la-loi, affirme des sources de sécurité. Ces assaillants ont également incendié des habitations des civils. La société civile locale rapporte que 2 personnes, dont une femme, ont été tuées. Le bilan officiel de cette attaque n'est pas encore connu, mais l'ennemi serait en train d'être poursuivi par l'armée, indique un notable du milieu. Des sources concordantes signalent le déplacement de la population dans les localités proches des zones de combat, notamment au centre commercial de Lopa sur la RN27. Le député provincial Ona Mastaki plaide pour le renforcement de l'effectif militaire en vue de contrer la menace de l'ennemi. Nous n'avons pas encore la réaction du porte-parole de l'armée en Ituri. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Province du Maniema, on en sait un peu plus sur le bilan des 2 jours des vives tensions enregistrées dans la commune rurale de Salamabila. Selon le président de la société civile locale, 2 personnes sont mortes, 6 autres blessées et 10 maisons dont les sièges des institutions saccagées. Saïd Ivumba, président de cette structure citoyenne, au nom de la population, demande la suppression définitive des barrières payantes pour éviter ce genre de situation à l'avenir. Saïd Ivumba, joint au téléphone par Florence Kiza.
Les bilans
bilan de ces dégâts fait état de 2 morts, 6 personnes blessées et 10 maisons saccagées, dont le siège de certaines institutions de l'État. Et aussi, les activités ont tourné aux alentours pendant 2 jours. Tous deux sont aux arrêts par leur commandement. Et on attend le déploiement du tribunal militaire de garnison pour organiser un procès de flagrance en violence publique à Salamabila. La société civile est en train de déplorer chaque jour les comportements des militaires déployés à Salamabila. On connaît que l'armée, c'est une société organisée et que ces éléments œuvrent sous une déontologie et une discipline. Mais nous demandons à ce que les barrières payantes érigées par des militaires en cours de route soient supprimées définitivement dans les esprits Kabambar, parce que c'est la cause majeure même de ce qui a suscité à ce que les gens commencent à mourir. Et encore, quelqu'un n'ayant pas payé à la barrière, vous venez les tuer. La société civile lance un cri d'alarme aux autorités militaires, les FNC, les ministères de la Défense, de pouvoir prendre une décision de supprimer les barrières payantes. Les militaires peuvent rester dans des villages, mais ils ne doivent plus continuer à ériger des barrières payantes.
Du côté du Congo central, l'activisme des coupeurs des routes tant décrié sur la nationale numéro 1 prend de l'ampleur à la hauteur de la cité de Lukala, territoire de Mbanzangungu, et celle de Kimpese dans le territoire de Songololo. Dernier cas, la nuit dernière, des coupeurs des routes ont blessé par balle le conducteur d'un véhicule avant d'emporter les biens des passagers. Nana Pluriche Mambou nous raconte.
C'est aux environs des 10h du matin de ce vendredi qu'un véhicule de marque Renault du pneu provenant de Kinshasa à destination des Matadi a été pris au piège des coupeurs de routes. Les conducteurs de ces véhicules qui voulaient leur tenir tête en résistant à plusieurs tirs de sommation a été expressément blessé par balle. Il est actuellement pris en charge à l'hôpital Imé de Kimpese. Une somme d'argent et plusieurs biens des valeurs des passagers ont été ravis par ces malfrats qui ont opéré à la hauteur du bureau administratif de la régie des eaux situé à quelques 500 mètres du point d'intervention de la police avant les cimetières de Lukala. Cet axe est toujours le théâtre de ces actes de barbarie sans qu'aucune disposition ne soit prise. La nouvelle société civile congolaise plaide auprès du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité pour qu'il y ait permutation des commandants à travers la province du Congo central, que ce soit au niveau de la police que des FRDC. Car d'après le coordonnateur de cette structure, Levi Mbiyavanga, ceux-là qui sont en place ont montré leur incapacité dans l'exécution de leur mission. La même source signale que cette même nuit, les passages vers les quartiers 5 à Imé a été bloqué par un autre groupe de malfrats. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, à Beni, la coordination de la riposte contre Ebola ainsi que les autorités urbaines disent faire un constat amer, soit la résistance de la population et surtout les cas contacts à la vaccination. Pour l'équipe de riposte, avec le nouveau vaccin qui est une expertise des Congolais, la population doit se faire vacciner massivement afin de couper la chaîne de contamination et s'y protéger. Le docteur Michel Tosalisana, coordonnateur de la riposte contre Ebola dans la région de Beni, s'exprime à ce sujet au micro de Marc Marot.
Certains peuvent être réticents à la vaccination ou bien à la décontamination. Donc toutes les actions de santé publique, même à l'investigation, quelqu'un refuse seulement d'être investigué parce qu'il sait que s'il est validé, il sera acheminé au CTE. Et s'il n'est pas d'accord avec le traitement au CTE, il peut être réticent et même virer à la résistance. Parce que la résistance, ça veut dire qu'il y a même des actions qui manifestent que réellement la personne n'est pas d'accord. Et Banga, c'est une fierté congolaise, c'est par le professeur Mouyembe et son équipe, elle cherche INRD et nous avons à côté de ça Régénéron. Et donc nous avons à notre disposition deux molécules et le choix est établi par les cliniciens selon l'état du malade. Nous avons déjà les deux molécules. Il dépend du choix des cliniciens pour déterminer de quelle molécule va être administrée à quel malade.
Nord Kivu toujours, les centrales d'approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels de 12 provinces de l'Est de la RDC s'engagent à lutter contre ce qu'elles appellent les pharmacies de la mort. Il s'agit du marché des médicaments dont la qualité n'est pas certifiée en expansion dans la région. C'est l'une des décisions prises à l'issue de la mini table ronde que ces centres d'approvisionnement ont organisée 4 jours durant à Goma avec l'appui de l'association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels, ASRAM en sigle. Leurs travaux se sont clôturés hier. Ici, la sœur Brigitte Bidoya, directrice du centre de distribution des médicaments de Kananga au Kasaï central, revient sur l'engagement des acteurs du secteur au micro de Rosalie Zawadi.
Il y a prolifération de médicaments de mauvaise qualité qui circulent dans notre pays. Avec le pouvoir d'achat très faible de la population a tendance à aller où ça coûte moins cher, mais la qualité n'est pas rassurée. C'est ce qu'on a appelé des pharmacies de la mort. Au niveau du système national d'approvisionnement en médicaments, nous, nous visons la qualité. Parce qu'avant d'acheter les médicaments qui doivent être mis à la disposition de la population, la fédération passe par la préqualification des fournisseurs, des couples produits fabricants pour acheter les médicaments de qualité. Et tous les médicaments qui circulent dans le système passent par des analyses qualité et sont accompagnés des bulletins d'analyse. Notre rôle, c'est de rendre disponible le médicament de qualité. C'est que quand les structures clientes, les hôpitaux, les centres de santé, les partenaires qui viennent au niveau des centrales de distribution trouvent des médicaments de qualité, nous nous sommes sensibilisés pour que le médicament soit à rendez-vous, pour les empêcher d'aller sur le marché et acheter les médicaments dont la qualité n'est pas rassurée.
Direction le Sud Kivu, l'Université catholique de Bukavu, UCB, en collaboration avec l'Université Loyola du Congo à Kinshasa, a décerné à titre posthume le diplôme de docteur d'honoris causa à Monseigneur Christophe Munziroa, cela en marge du 25e anniversaire de l'assassinat de ce prélat catholique. C'est dans ce cadre qu'une journée scientifique et culturelle a été organisée hier au collège Alpha Djiri de Bukavu. Mais qui était Monseigneur Munziroa et pourquoi a-t-il été décoré docteur honoris causa par l'UCB, Cynthia Bachizi, pour les détails.
Le professeur Mubagwa Kanigula, recteur de l'UCB, est formel. C'est le meilleur diplôme honoris causa décerné par son institution et il lui était difficile d'expliquer exactement pourquoi, tellement c'était une évidence.
Pour être sincère, c'est nos collègues de l'Université Loyola de Kinshasa qui sont venus nous trouver et nous ont dit « qu'est-ce que vous pensez d'un tel doctorat ?» Et franchement, on s'est dit « ça n'est même pas à discuter ». Seulement les mérites du personnage sont nombreux, en toute qualité intellectuelle, morale, spirituelle. Et donc, je crois que c'est l'un des meilleurs doctorats honoris causa que nous ayons jamais délivré.
Le 27 octobre 1996 à Bukavu, deux jours avant son assassinat, au plus fort de la crise sécuritaire, quand le bruit des bottes se faisait sentir, Monseigneur Munziroa appelait à la résistance pour sauver la patrie. Tué par des rebelles à la place qui porte désormais son nom, son engagement pour la justice et la paix peut guider la classe politique actuelle, d'après l'abbé Justin Kunzi, l'un des derniers prêtres à être ordonné par l'évêque Munziroa.
Si toutes les autorités politiques administratives, nous tous, chacun à son niveau, comprennent que chacun se sacrifie à son niveau et fasse le meilleur de lui-même pour que justice et paix s'embrassent, j'espère qu'on peut marcher sur les traces de l'archevêque Munziroa.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Contrairement aux autres provinces de la RDC où les enseignants du secteur public sont en grève depuis la rentrée scolaire en cours, ceux de la province du Maïndombé n'ont décrété aucun mouvement de grève. Déclaration du ministre provincial de l'EPST, Ambroise Nkele. Selon lui, les enseignants ont été suppliés et ont accepté de travailler malgré les salaires dérisoires. Irène Mboma nous en dit plus.
Il n'y a pas de mouvement de grève pour les enseignants du secteur public de la province du Maïndombé malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent. Tout en félicitant ces enseignants, le ministre provincial de l'EPST indique que le souci est de voir les enfants de cette province étudier et ne pas être en retard par rapport au calendrier scolaire. Ambroise Nkele.
Personnellement, je suis encouragé les enseignants de Maïndombé parce qu'ils sont en fonction. Nous avons souci de nos enfants. On sait bien que c'est vraiment souffrance parce que les salaires très dérisoire, comme le réclame tout le monde. Mais nous les avions suppliés et ils travaillent dans l'ensemble du Maïndombé, il n'y a pas grève.
De l'autre côté, le coordonnateur de l'ONG ADDH, Action pour la défense des droits de l'homme basée à Nioki, précise que le mouvement de grève est partiel dans la sous-division de l'EPST Koutou 1. Selon Fidel Pamuna Olizorongo, cela n'a rien à voir avec la grève observée par les enseignants de partout ailleurs.
Le mouvement là n'est pas lié aux recommandations que font le syndicat. Donc ils sont mécontents, ils ont la méfiance face à la banque qui leur paye, ils retardent les salaires, il y a des retenues aussi qui ne sont pas légales.
Il convient de noter que ces propos de Fidel Pamunao sont confirmés par Giscard Mbukela, président de la délégation syndicale des enseignants de Koutou 1. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'avortement est désormais légal au Bénin. L'Assemblée nationale a voté hier la légalisation de cet acte qui jusqu'ici était interdit, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Désormais, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée jusqu'à 12 semaines. Pour le ministre de la Santé, cette mesure vise aussi à mettre fin aux avortements clandestins, car chaque année au Bénin, près de 200 femmes meurent des suites des complications d'un avortement, selon les chiffres du gouvernement béninois. Le Bénin rejoint ainsi 4 autres pays africains qui ont légalisé l'avortement, soit la Tunisie depuis 1973, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert en 1997 et le Mozambique en 2014. Mais ailleurs en Afrique, l'interdiction d'avorter reste la norme. Pour plus d'une vingtaine de pays, l'avortement est autorisé uniquement si la vie de la mère est en danger. D'autres l'autorisent en cas de viol ou d'inceste ou en cas de malformation du fœtus. Afghanistan, 97% de la population afghane pourrait passer sous le seuil de pauvreté d'ici à l'an prochain, selon le programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD annonce ainsi la création d'un fonds d'urgence pour aider directement la population. L'objectif est double, réinjecter de l'argent liquide dans le pays et le faire sans passer par les talibans. D'après le Fonds monétaire international FMI, le PIB afghan devrait s'écrouler de plus de 30% en 2021. L'économie qui vivait avec l'aide international ne peut plus compter sur les dons des États puisque ceux-ci ont tous été gelés, d'où la création de ce fonds d'urgence.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Isabelle Monga, coordonnatrice nationale du RENAFER, le réseau national des femmes rurales. Elle est en mission au Kasaï oriental pour une formation de 100 femmes des 5 territoires de cette province. Cette formation vise à promouvoir les produits congolais et aussi rendre la femme rurale entreprenante. Isabelle Monga s'entretient à ce sujet avec Esther Ndalafina.
Le but de notre mission est de former 100 femmes sur comment fabriquer la farine panifiable. C'est une farine qui est faite à base de manioc. C'est dans le cadre de promouvoir nos produits congolais. Et puis la mission a comme but de rendre la femme rurale entreprenante. Et je suis venue booster, dire aux femmes rurales quels sont les socles du développement. Sans l'agriculture, il n'y a pas le patronat. Donc dans ces programmes, on a commencé par la formation sur l'entrepreneuriat, qui est un programme access de la FEC avec Madame Expérience Belaou. Et il y a aussi l'ingénieur Lukombo de l'ITA qui est chargé de l'autonomisation. Et il est en train de former les femmes sur comment fabriquer la farine panifiable, comment faire le pilchage. Nous avons amené une unité de transformation qui va aider aux femmes, parce que nous leur avons dit qu'elles doivent travailler ensemble dans le réseautage qui fera d'elles une force. Nous leur avons appris comment épulcher, comment faire le micro-cossette, comment tremper le manioc. Il faut commencer par laver, chercher de l'eau pure. Parce que dans l'ignorance, les femmes font la transformation de la farine de manioc. Dans l'ignorance, elles utilisent une mauvaise eau polluée. Avec nous, c'est de l'innovation. Où tremper le manioc? Comment faire pour avoir une farine dans moins de 24 heures? Comment presser? Comment extraire l'amidon? Après ça, nous sommes à l'étape de l'apprentissage de la pâtisserie. Comment faire des beignets, des cakes, le spaghetti, le pizza, du pain à base de la farine de manioc. Et les femmes se sont appropriées de l'activité, du projet. Elles sont vraiment actives. Il y a parmi elles ceux-là qui ont étudié et ceux-là qui n'ont pas étudié. Je leur ai dit que, étudiées ou pas, elles sont capables parce que ce sont des femmes entrepreneurs.
Pourquoi avoir fait le choix de Kabiakamanga?
Merci. Il y a la présidente provinciale, la sœur Emérance Mwanza, coup de chapeau à elle. Elle a choisi Kabiakamanga parce qu'il y a beaucoup de production de manioc.
Nous voyons, vous avez amené deux machines. Après cette formation, ces femmes qui deviendront demain des formatrices, pensez-vous qu'elles seront aussi munies de ces machines-là pour aller former?
Ici au Kasaï, il y a déjà d'autres unités non utilisées. Comme on implante une unité à Kabiakamanga, en Bushima, il y a aussi d'autres unités. Et moi, à mon niveau, je continue avec le plaidoyer. Mon souci est que chaque territoire ait une unité de production.
Il y a 5 territoires au Kasaï oriental plus la ville de Mbujimayi. Vous avez sélectionné que 100 femmes. Pensez-vous qu'avec les 100 femmes, toutes les femmes qui font la culture du manioc peuvent aussi être formées?
Tout à fait, parce que chaque territoire est représenté par 5 femmes. Rien à faire est bien organisé. Les 5 femmes, c'est parmi les points focaux de la province. À leur tour, elles vont former les autres. Une femme formée vaut 100. Moi, en tout cas, moi, j'ai l'assurance que les autres femmes qui sont restées seront formées à travers les formatrices.
Madame Isabelle Monga, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
La coordonnatrice nationale du réseau des femmes rurales, RENAFER, était avec Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal, coordonné par Richard Junior Kamunga, sous la supervision de Ben Kabamba, à la technique Sylvain Matundu, et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci de nous avoir suivis.